Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Nous nous mettons à l'heure de la bataille de l'opinion ce soir. Nous sommes à la veille de la première grande mobilisation contre la réforme des retraites. Enjeu de taille pour le camp du président Macron qui craint des blocages et a encore besoin de convaincre les Français. Enjeu de taille également pour les syndicats qui, dès demain, jouent leur capacité à mobiliser. Nous avons invité Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, et Gérard Mardinet, le monsieur retraite de la CFE-CGC. Ils débattront ensemble dès 19h20. Vous participez, vous alimentez la discussion en nous appelant au 3921. Le standard d'Europe 1 vous attend. Avant toute chose, le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Alors que le gouvernement met en garde les syndicats contre un blocage généralisé, les Français anticipent les difficultés qu'ils vont affronter demain, transport ou école. Reportage dans un instant. Nous suivrons aussi les préparatifs du défilé lyonnais et nous verrons dans quel état d'esprit Emmanuel Macron aborde cette journée. Dans ce journal également, le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien près de Kiev, 14 morts, une peine indicible selon le président Zelensky. Et puis France-Monténégro, match du mondial de handball qui a commencé il y a une heure. Pour l'instant, les Bleus mènent 21-17.
23-17 à l'instant, chère Hélène. On va évidemment suivre ça, ça bouge, ça évolue à toutes les secondes dans le handball. La tendance météo en attendant, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël, ça évolue aussi très rapidement du côté de la météo. Alors dans le sud-ouest, c'est là que la situation est la plus délicate avec la neige qui s'invite ce soir et cette nuit à basse altitude. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont placées en alerte orange. Et puis l'autre info météo, c'est le retour de la pluie par l'ouest demain après-midi. On fait un point complet à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1.
À la veille de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreux Français se préparent à une journée de galère.
Et oui, peu ou pas de transport des enseignants absents, il faut donc s'adapter, faire appel à la famille, au système D ou au télétravail. Geoffrey Branger a rencontré des Parisiens entre inquiétude et résignation.
Ce soir, à la sortie du travail, les Parisiens que j'ai rencontrés ont tous la tête à leur trajet de demain matin, comme Babak et Corinne.
Normalement, c'était prévu en transport, mais là, j'irai à vélo. Je partirai une heure plus tôt, au moins pour arriver à l'heure, en fait. Voilà.
Pour aller travailler, normalement, je prends le tram. Demain, grâce à la grève, j'irai travailler à pied.
Mais pour certains, impossible, alors c'est le retour du télétravail pour Isabelle. Et elle devra en même temps s'occuper de son fils de 6 ans, sa maîtresse étant en grève.
Et demain, je vais travailler de chez moi et ne pas me déplacer compte tenu des manifestations. Je vais d'ailleurs garder un de mes fils en même temps, ce qui est hyper pratique.
Thierry, lui, est patron d'une PME dans le Val d'Oise. Impossible pour ses employés de faire du télétravail. Il faut donc faire preuve de souplesse.
Il y a plutôt une plus grande tolérance pour accepter un peu les retards, etc. C'est le système D comme à chaque fois.
Mais il n'y a pas que pour les travailleurs que cette journée s'annonce compliquée.
Qui vient là pour faire du tourisme et on peut pas faire les musées. On va se restreindre autour de chez nous. Quoi.
Les Parisiens sont donc prêts pour cette journée de grève, mais si la mobilisation venait à se poursuivre, ce serait bien plus compliqué.
Le reportage de Geoffrey Branger.
Et évidemment, côté syndicat, on se prépare aussi pour demain.
Oui, ils seront d'ailleurs unis pour la première fois depuis 12 ans. Des rassemblements sont prévus dans plus de 200 villes, à Lyon par exemple, où la CFDT met la dernière main aux banderoles, des préparatifs auxquels assistait Jean-Luc Boujon.
Sur une table, du carton ondulé, des marqueurs, des bombes de peinture et du scotch, bref, tout le nécessaire pour confectionner les pancartes qui seront utilisées demain dans le défilé lyonnais. Katia Beau, la secrétaire générale, en a supervisé la fabrication.
Alors là, notre banderole pour un système de retraite juste et solidaire. 64 ans, c'est non. Et ensuite, on aura aussi cette banderole-là,
un petit peu humoristique. Elisabeth, tu dépasses les bornes.
Bravo.
De la bonne humeur donc et de la détermination. Dehors, c'est le camion qui sera en tête de cortège que l'on prépare. Un camion sono d'où partiront les chants et les slogans de cette manif si importante, explique Sonia Paco, responsable départementale.
C'est le camion principal avec effectivement la sono pour faire passer nos messages. C'est une réforme injuste. Il y a un très fort mécontentement. Dans les entreprises et les administrations, ça bouge beaucoup. Il y a la grande distrib, Carrefour et Culli notamment, Vinci, la construction. On sent vraiment que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Et demain, ce sont plusieurs milliers de manifestants qui sont attendus attendue à Lyon, avec toutefois la crainte côté syndical que les chutes de neige annoncées pour le matin ne dissuadent certains de venir exprimer leur opposition à la réforme. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et selon les services de renseignement, ce sont 550 à 750 000 manifestants qui sont attendus dans toute la France.
Oui, 50 à 80 000 à Paris, avec des risques de débordement. William Molinier, le ministère de l'Intérieur prévoit un dispositif musclé pour encadrer ces défilés.
Oui, plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, 3 500 rien que pour Paris, 76 équipages de la police des transports dès 6h30 demain dans les gares parisiennes. C'est beaucoup mais nécessaire selon la place Beauvau. Le renseignement craint la présence d'un millier d'individus violents, des gilets jaunes radicalisés, la mouvance de l'ultra-gauche qui pourrait en profiter pour mettre la pagaille. Demain, la gestion du maintien de l'ordre va être scrutée de très près dans les cortèges, mais aussi aux abords des universités et des établissements scolaires où des actions de blocage sont prévues. Équilibre compliqué à trouver pour le commandement du maintien de l'ordre. Il doit pouvoir garantir la liberté de manifester à tout le monde. Cela suppose que les CRS et les gendarmes mobiles encadrent à bonne distance les cortèges, tout en restant suffisamment au contact pour ne pas laisser le champ libre aux casseurs. Sans compter les critiques, les images, les vidéos qui pourraient surgir des réseaux sociaux. Épreuve de la sensibilité de la journée de demain, la hiérarchie policière exige le port de la caméra piéton pour chaque patrouille de police déployée sur le terrain.
Et puis ce soir, première action symbolique d'agents d'EDF. Ils ont procédé à des baisses de production d'électricité sur des barrages. Conséquence, la perte sur le réseau de l'équivalent d'un réacteur nucléaire. En revanche, aucune coupure de courant.
Le gouvernement est donc sous pression avec un mouvement qui s'annonce très suivi.
Elisabeth Borne a déjà appelé les syndicats à ne pas pénaliser les Français. C'est au tour d'Olivier Véran d'en faire autant. Pour le porte-parole du gouvernement, défiler, c'est oui, mais bloquer, c'est non.
Demain, une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, j'espère que nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
Olivier Véran qui rendait compte du Conseil des ministres. Conseil qui a été l'occasion pour Emmanuel Macron d'adresser ses dernières consignes pour demain aux membres du gouvernement, Jacques Serret.
Oui, Emmanuel Macron a demandé à ses troupes de se déployer partout. Rendez-vous, prise de parole publique, intervention médiatique. Il faut expliquer et encore expliquer les enjeux de la réforme, a-t-il insisté auprès des membres du gouvernement. S'il reste très discret en public ces derniers jours sur le sujet, le chef de l'État est bien à l'offensive en coulisses et il règle ses comptes avec ses anciens camarades du Parti Socialiste, notamment. La gauche profère des mensonges et des contre-vérités, estime-t-il, rappelant à ses ministres que ce sont les socialistes qui, quand ils étaient au gouvernement, ont fait voter l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans. S'ils ont un problème avec les 43 ans, c'est qu'ils ont un problème avec eux-mêmes, juge-t-il. Le locataire de l'Élysée assume, pour lui, le débat présidentiel a été transparent, cette réforme était dans son programme. C'est pourquoi il ne redoute pas un pays à feu et à sang demain et ne croit pas, je cite, à la victoire de l'irresponsabilité. Il ne fixe de toute façon aucun seuil de manifestants à partir duquel il pourrait bouger sur cette réforme, même si le million de manifestants était dépassé, comme le prévoit ce soir un conseiller de l'exécutif.
Un million de personnes dans la rue ou moins, quoi qu'il en soit, le président ne sera pas en France demain, mais à Barcelone pour signer un traité d'amitié franco-espagnol qui doit renforcer la coopération entre nos deux pays.
Voilà cette première grande journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Nous en parlerons plus en détail après le journal d'Hélène Zellani. Nous serons avec Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, et Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC. Vos questions sont les bienvenues, vous nous appelez au 39-21. On marque une pause et dans quelques instants, le crash de l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien ce matin près de Kiev. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Et maintenant, parlons énergie des territoires avec Antargaz.
Bonjour Michel Ferrand, vous dirigez B-Side Factory qui presse des disques en vinyle à Montaigu en Vendée et vous utilisez du gaz pour votre activité avec Antargaz. Quel usage en faites-vous dans la production des vinyles?
Nous utilisons pour alimenter notre chaudière qui doit pouvoir fournir une vapeur à 180 degrés. Et cette vapeur va être injectée dans nos presses vinyles pour pouvoir chauffer le PVC qui va servir à la fabrication du vinyle audio.
Et pourquoi avez-vous choisi l'énergie avec Antargaz ?
Eh bien, une semaine avant de démarrer notre production, nous nous sommes aperçus que notre compteur gaz naturel n'était pas adapté au niveau puissance. Antargaz a été très réactif et en une semaine nous a proposé une solution alternative, nous a installé une citerne de gaz propane qui nous a permis de pouvoir lancer notre production dans les délais.
Merci Michel Ferrand, à bientôt.
Merci et à la semaine prochaine pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre spéciale NordVPN sur nordvpn.com et profitez d'une expérience en ligne sécurisée et confidentielle tous les jours. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien.
Europe Soir, 19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
19h10, la suite du journal d'Hélène Zélani. C'est un coup très dur pour l'Ukraine. L'hélicoptère du ministre de l'Intérieur s'était écrasé près de Kiev, faisant au moins 14 morts.
Un bilan qui a d'ailleurs été revu à la baisse. Le ministre et ses deux collaborateurs font partie des victimes, de même qu'un enfant de l'école maternelle sur laquelle l'hélicoptère est tombé. Caroline Baudry, le Super Puma se dirigeait vers la ligne de front.
Oui, avec à son bord le ministre Denis Motastirski, 42 ans, son premier adjoint et un autre responsable du ministère accompagné de 6 autres passagers. L'hélicoptère d'État s'écrase tôt ce matin à Brovary, une ville de 100 000 habitants qui touche la banlieue est de Kiev. Le bâtiment d'une école maternelle est touché. Un important incendie se déclare, gagne un immeuble et 3 voitures. Sur les images, on voit les pales de l'appareil enfoncées dans une façade noircie. Bilan, 14 morts, dont un enfant, 25 blessés, dont 11 enfants. Des voisins en larmes ont posé des fleurs et des peluches sur des débris rouges d'hélicoptères. Oleksiy Kouleba est gouverneur de la région de Kiev.
Sur place, les services de l'État continuent à travailler. On évacue les débris de l'hélicoptère et des bâtiments. On va faire ce travail jusqu'à la fin de la journée.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore une terrible tragédie, ordonne l'ouverture d'une enquête sur les circonstances du drame. Toujours inconnu, toutes les pistes sont envisagées, y compris une action délibérée de destruction. L'Allemagne propose son aide dans cette enquête. Les chefs d'État occidentaux ont multiplié les hommages aujourd'hui. Emmanuel Macron a présenté sur Twitter ce matin les condoléances de la France.
Et puis c'est en ce jour de deuil pour l'Ukraine que le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov s'en prend aux États-Unis et aux pays occidentaux en général. Il compare les actions contre son pays à la solution finale du régime nazi pour exterminer les Juifs. Aux États-Unis, les entreprises technologiques continuent à se séparer en masse de leurs salariés. Aujourd'hui, le géant de l'informatique Microsoft invoque la conjoncture économique pour licencier 10 000 employés d'ici la fin mars, soit un peu moins de 5% de ses effectifs.
Allez, on retourne en France, à Bordeaux précisément, où les premiers flocons de l'hiver sont arrivés.
3 petits centimètres, et c'est plutôt rare en Gironde. Dans le monde du vin, on a vu arriver cette neige sans trop d'inquiétude. Rémi Edange, viticulteur à Pessac, est même plutôt content.
La neige est arrivée vers 1h moins le quart. Une averse assez forte. La température est passée de 2,5 degrés à 0 degré. Elle a tendance à fondre maintenant, mais il y en a encore dans les vignes. Il y en a encore dans les vignes. Mais si on avait la chance d'avoir un sol recouvert de neige pendant 2 ou 3 semaines, ça serait formidable parce que la neige fertilise les sols. Ça ne me dérangerait pas que le temps, surtout neige ou pas neige, mais reste plutôt frais, plutôt froid, plutôt de saison et ne s'excite pas trop tôt dans la saison. Le refroidissement est bon et la neige, c'est bon si elle reste longtemps. Si elle reste pas longtemps, bah c'est joli pour les photos.
Voilà, témoignage recueilli par Inès Zegloul et dans quelques minutes, la météo de Marlène Duret.
Mais avant toute chose, le mondial de handball, la France joue en ce moment.
Oui, rencontre qui a commencé à 18h. Les Bleus, invaincus depuis le début de la compétition, jouent contre le Monténégro avec en ligne de mire les quarts de finale. Axel May, vous suivez le match à Cracovie en Pologne.
Oui, bonsoir. Et les Français déroulent 16-13 à la mi-temps, 29-20 à l'instant où je vous parle, alors qu'il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Et ça sera la fin du match. Les Français qui ont retrouvé leur tenue bleue après 2 rencontres disputées en blanc. Ils font tourner leur effectif face aux Monténégrins, tout de rouge vêtu. Un seul absent sur blessure, Dika même, qui se remet d'une contracture et qui regarde le match en tribune à quelques mètres de la position commentateur d'Europe 1, ici à Cracovie. Krakow, comme on dit en polonais, dans une salle que les Bleus découvrent, puisque puisque, Hélène, on le rappelle, les trois premiers matchs avaient eu lieu à 1h30 d'ici à Katowice. Et avec ce quatrième succès consécutif qui se profile, les hommes de Guillaume Gilles sont en train de faire un pas très très grand vers les quarts de finale.
Voilà, on le souhaite. Axel May à Krakow, envoyé spécial d'Europe 1, la radio du Mondial de Hand. Un mot de l'Open de tennis d'Australie. Le tenant du titre, Rafael Nadal, a été éliminé dès le deuxième tour, mais il souffrait de douleurs à la hanche. C'est fini également pour Richard Gasquet, éliminé par un autre Français, Hugo Humbert.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie.
Ce refrain, vous le connaissez sans doute. La chanson a fait connaître Marcel Zanini, qui vient de mourir à 99 ans. On garde en mémoire la moustache, les lunettes rondes et le bob sur la tête de celui qui était avant tout un grand musicien de jazz.
Si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas.
Et la bourse de Paris maintenant, elle monte ou elle monte pas, Claire Lemaître de boursier.com?
Elle monte un tout petit peu, plus 0,1%, 7083 points. Ça permet au CAC 40 de signer une sixième séance de hausse consécutive. On est à 7083 points ce soir. Les marchés ont été partagés entre une inflation qui donne des signes de ralentissement et toujours les craintes de hausse de taux. Ça nous donne un repli pour Londres, moins 0,3%. Francfort et Amsterdam sont stable, plus 0,3 pour Milan et donc plus 0,1 pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître.
Et merci à vous Hélène Zélani. À 20h, vous revenez ou vous revenez pas?
Eh bien, je reviens bien évidemment.
À tout à l'heure, chère Hélène. La météo, Marlène Duret. Ce soir et cette nuit, il faut compter avec la neige dans le sud-ouest.
Et oui, d'ailleurs, on a une masse d'air polaire maritime qui a gagné tout l'Europe de l'Ouest. Des averses qui circulent de façon anarchique ou en rang serré, et puis surtout ce front secondaire dans le sud-ouest, en effet, qui est à l'origine d'averses neigeuses. Elles vont s'intensifier ce soir et cette nuit au pied des Pyrénées et plus particulièrement sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées où les quantités de neige peuvent atteindre 5 cm vers 200 ou 300 mètres, jusqu'à 10 vers 400 mètres et 10 à 20 cm au-dessus de 600 mètres d'altitude. Une alerte orange est en cours dans ces deux départements. On a quand même une autoroute qui passe dans le coin, la 64 qui relie Toulouse à Bayonne et elle passe par le plateau de Gers et le plateau de Lannemezan, donc ce qui peut engendrer des problèmes de circulation.
Renseignez-vous avant de prendre la route. De nouvelles pluies arroseront également demain la façade atlantique.
Oui, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine dans l'après-midi avant de gagner le Languedoc-Roussillon en soirée où la neige là, va tomber à très basse altitude. Et là encore, si vous roulez entre Toulouse et Narbonne, soyez vigilants. Sur le reste du pays, quelques chutes de neige peuvent encore blanchir les sols entre la Normandie, le centre-val de Loire, la région parisienne et les régions du quart nord-est. Attention au risque de verglas également demain matin vers le Massif central et le Lyonnais.
Et demain matin, cette saison, attention aux gelées.
Oui, on en aura un petit peu partout. Bon, bah, il va faire froid, quoi. Elles seront plus marquées dans le nord-est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Entre moins 6 et moins 1 degré hein, pour les thermomètres, jusqu'à moins 9 en Lozère et sur l'Aubrac. Et puis les maximales l'après-midi, parce que ça nous intéresse aussi. Il fera entre 4 et 8 degrés sur la moitié ouest du pays et près de la Méditerranée. Pourquoi à l'ouest? Parce que la perturbation qui va arriver, les nouvelles pluies s'accompagnent d'un petit peu d'air plus doux. Voilà. Mmh. Et puis sur l'est du pays, en revanche, 1 à 5 degrés, pas plus.
Merci.
Au meilleur de la journée.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Marlène Duret. Vous nous ferez une petite piqûre de rappel tout à l'heure à 23h sur Europe 1 pour donc un nouveau point météo. Quant à nous, nous allons débattre dans quelques instants. Vous allez vous aussi pouvoir débattre. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1, pour participer à la discussion entre Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, défenseur de la réforme des retraites, et Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC. Lui sera dans le camp des manifestants demain pour la première grande journée de mobilisation de l'intersyndicale. A tout de suite sur Europe 1, n'oubliez pas le numéro, le 3921.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
N'oubliez pas de ce numéro, hein, le 3921, le standard d'Europe 1. Vous pouvez réagir, intervenir à l'antenne. Vous nous appelez, Élise vous accueille, le 3921. Demain, beaucoup d'entre vous seront sûrement en télétravail, à la maison avec les enfants, pas de train, pas de professeurs pour la première grande mobilisation contre la réforme des retraites, sorte de premier round dans cette bataille de l'opinion qui ne fait que commencer. Combien de temps ça va durer? Quelle tournure vont prendre les événements? Va-t-on vers un blocage du pays, un recul du gouvernement ou bien de l'âge de départ en retraite? Nous sommes avec Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines. Bonsoir monsieur le député.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
C'est un plaisir, et avec nous également Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je peux vous présenter un peu comme le monsieur retraite du syndicat. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, n'oubliez pas hein, le numéro, le 3921. Je rappelle que vous pouvez participer. C'est important hein, que je le rappelle. Hein, soyez pas surpris si je dis 3921 comme ça tout au long de la conversation. Alors, avant de rentrer dans le détail hein, de la réforme, quel est votre état d'esprit à la veille donc, de cette grande journée de mobilisation qu'on présente parfois comme un jeudi noir, Charles Rodouel?
Le droit de grève et le droit à manifester est un droit constitutionnel dans notre pays. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de Français qui soient opposés à cette réforme. Moi, je la soutiens. Je pense qu'elle est à la fois nécessaire pour notre système de retraite et qu'elle est juste pour des millions de retraités. Mais le droit à manifester fait partie du droit constitutionnel de notre pays. Et simplement, le seul appel que je me permets de lancer, c'est un appel plutôt au calme, à ce qu'il n'y ait pas trop de blocage pour les milliers de Français, les millions de Français qui iront travailler demain et qui n'ont pas besoin d'être dérangés en allant travailler.
Gérard Mardinet, la CFE-CGC sera dans la rue demain. Oui. Quel est votre état d'esprit?
Notre état d'esprit, c'est une mobilisation très forte et finalement le sentiment d'un échec suite aux concertations qui ont été menées avec le gouvernement pendant 3 mois à l'automne et qui n'ont pas abouti parce que c'était un simulacre de concertation. Donc on a été écouté, mais absolument pas entendu, en particulier sur le diagnostic profond de l'équilibre financier de notre système de retraite, où nous savons faire la démonstration qu'il n'est absolument pas en danger financièrement. Et nous expliquons tout ça à nos adhérents et à l'encadrement que nous représentons, salariés de l'encadrement, qui ne sont pas les premiers à manifester dans la rue et qui sont fortement mobilisés parce qu'ils n'apprécient pas du tout qu'on les prenne pour des idiots.
Alors, vous exprimerez quoi demain? De la colère, de la frustration, des revendications très précises?
La revendication, elle est très claire. C'est le retrait de cette réforme qui n'est absolument pas nécessaire. Nous, on est d'accord pour discuter du sujet des retraites parce qu'il y a bien sûr à améliorer des choses, mais en partant du besoin.
Pour que les auditeurs comprennent, hein, la CFE-CGC, c'est un peu comme la CFDT, c'est un syndicat dit réformiste. Hein. La manifestation n'est pas franchement dans votre ADN.
Nous, on n'est pas partisans de ce terme réformiste. Nous, on analyse les sujets avec rigueur, scientifique s'il le faut, technique.
Mathématique, surtout, en l'occurrence, sur les retraites,
exactement.
Si j'ai bien compris. Quelques chiffres à la veille de ces manifestations. Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être, Charles Rodouel?
Non, c'est juste sur le point de la concertation. Je comprends le point de vue qu'on ne soit pas pour la réforme des retraites. Simplement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation qui a lieu depuis des mois. D'ailleurs, il y a des avancées sociale, de justice sociale majeure dont on parlera sûrement dans cet échange. Je pense par exemple à la pension de retraite minimale de 1 200 € pour des millions de retraités qui aujourd'hui gagnent seulement 900 euros par mois.
Comme beaucoup de membres de la majorité présidentielle, vous ne précisez pas si c'est brut ou net.
Ah, c'est brut, je vous l'affirme, c'est brut. Et la deuxième des choses, c'est l'exactitude du fait, et la deuxième des choses, c'est qu'il y a un grand nombre de partenaires sociaux qui aujourd'hui disent que la réforme des retraites n'est pas nécessaire pour les comptes publics, alors même que ça fait des années qu'ils soutiennent une modification, une réforme du système des retraites, justement parce qu'elle est nécessaire pour notre système. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Moi, en tout cas, ça fait des mois que Elisabeth Borne mène ses concertations à la fois à Matignon et puis partout en France. Encore une fois, le texte peut être amélioré. Et j'ai sous les yeux, par exemple, une bonne partie des propositions de la CFE-CGC en ce sens, sur d'autres sujets, l'emploi des seniors et tant d'autres. Et nous sommes parfaitement à l'écoute et vraiment, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Simplement, je crois encore une fois que cette réforme, elle est à la fois nécessaire pour la viabilité de notre système et juste pour des millions de retraités qui vont gagner plus en partant à la retraite.
Alors, une photographie de l'opinion, hein, je le disais avant de vous donner la parole, Charles Rodouel, les sondages hein, ne sont pas bons pour le projet de réforme défendu par le gouvernement d'Elisabeth Borne, hein, ce décalage de l'âge de départ de 62 à 64 ans, c'est la mesure emblématique. Un sondage IFOP pour le journal du dimanche paru le week-end dernier, 68% des Français sont opposés. Et vis-à-vis des grèves, c'est du 50-50. Hein. Il y a une vraie bataille de l'opinion, comme on dit, Gérard Martinet. Mardinet.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, revenons au fond, parce qu'il faut avoir ce débat contradictoire qui éclaire vos auditeurs. Et nous, nous avons fait des chiffrages très précis. L'espérance de vie n'augmente pas, n'augmente plus. L'INSEE a sorti d'ailleurs...
On l'a vu hier. Voilà,
a sorti le bilan démographique.
On est en phase de stabilisation.
Voilà. Eh bien, nous, on a chiffré un scénario espérance de vie constante qui améliorerait l'équilibre financier de notre régime de retraite de 47 milliards sur les 10 ans qui viennent. Des mesures fortes sur l'emploi des seniors, et M. Rodouel a indiqué le nombre de propositions qu'on avait faites, mais qui soient des mesures contraignantes et qui conduisent à un réel surplus de seniors au travail dans la tranche 58 à 62-63 ans, pas en allant faire travailler des gens de 67-68 ans, eh bien, ça ramènerait 41 milliards d'euros sur les 10 années à venir. Si en plus on rééquilibrait le partage de la valeur créée en France, notamment dans les entreprises, au profit du travail, vu qu'il s'est disséminé fortement en faveur du capital ces 20 dernières années, on ramènerait 110 milliards. Donc, on en arrive à dire, Elisabeth Borne avait déclaré, il y a 100 milliards de déficit sur les 10 années à venir. Et bien, nous, on dit, notre système de retraite, s'il est une prise en compte réelle, réaliste de l'espérance de vie, si on a des mesures fortes pour l'emploi des seniors, et si on a un partage de la valeur qui est rétabli en faveur des salariés, on a 198 milliards de différence, donc 98 milliards d'excédents qui permettent largement de financer les mesures de solidarité, dont l'augmentation des petites pensions.
Beaucoup, beaucoup de chiffres. Charles Rodouel.
Alors, moi, je respecte tout à fait l'étude que vous avez menée. Moi, j'essaie de partir d'analyses objectives. Je ne dis pas que la vôtre n'est pas objective, mais d'analyses objectives, notamment celle du Conseil d'orientation des retraites. On ne peut pas dire que ce soit un conseil qui a toujours été... favorable à l'action du gouvernement, notamment sur le sujet des retraites, évidemment. Qu'est-ce que disent les rapports de ce Conseil d'orientation des retraites ? Ils disent que dans un scénario de plein emploi, un scénario de plein emploi, c'est quand on a un taux de chômage de 4,5% en France. Je rappelle aujourd'hui que notre taux de chômage est à 7,5%, il est en baisse, mais il est toujours bien au-dessus. On a un déficit dans notre système des retraites, donc entre l'apport et les pensions qu'il faut verser, de 12 milliards d'euros en 2027. Il sera de 44 milliards d'euros dans le système actuel en 2050. Ce qui veut dire que sur les 25 prochaines années, nous aurions un déficit de près de 500 milliards d'euros cumulés. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand vous êtes élu député, moi je suis élu député depuis 6 mois. Ce que j'essaie de faire sur chacune des propositions de loi et des projets de loi qu'on est amené à examiner, c'est vraiment de regarder les éléments concrets et extrêmement importants, notamment d'une loi aussi importante comme celle-ci. Moi je vois deux choses. Vu ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, si on maintient le système actuel, on a un vrai sujet de viabilité de notre système. Donc je crois qu'il faut y apporter une réponse et cette réforme y répond. La deuxième des choses, et je le répète, c'est tout aussi important, et c'est même plus important encore, c'est que la réforme que nous apportons grâce à la concertation avec les partenaires sociaux depuis des semaines, c'est des vraies mesures de justice sociale. Je peux vous parler de pénibilité, de la prise en compte des carrières hachées, et bien sûr, du relèvement du minimum des pensions de retraite.
On marque une pause sur Europe 1 et on reprend notre conversation. On va prendre des auditeurs qui nous appellent au standard le 39-21. Restez avec nous sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé. Avec nous sur Europe 1 ce soir, Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, et Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC, syndicat qui manifestera demain aux côtés d'autres comme la CGT ou encore la CFDT, manifestation évidemment contre la réforme des retraites. Nous en parlons ce soir avec eux, mais aussi avec vous au standard d'Europe 1, le 39-21. Grâce nous appelle de Lyon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous ne croyez pas, vous, en un recul du gouvernement face à la rue, si j'ai bien compris ?
Non, je ne pense pas, tout simplement, puisque la mobilisation, si elle ne s'accompagne pas de blocage, on pourra voir que, comme par le passé, le gouvernement ne prend pas en compte les revendications. On a vu ça par les nombreux 49-3 qui ont été imposés à l'Assemblée. Mmh. Et puis aujourd'hui, j'estime quand même qu'il y a des jeunes qui... Alors, je ne suis pas forcément contre la réforme en soi. parce que on peut ne pas être d'accord dans se manifester, mais il faut considérer que cette réforme qui reprend les principes qui ont été proposés par, notamment lors des présidentielles par Éric Zemmour, permettra de sauver le principe de répartition. Si, et puis également, si on supprime les régimes spéciaux qui ont été accordés. Mmh. Et de surcroît, en fait, je trouve que les jeunes qui revendiquent aujourd'hui, ils n'ont pas forcément conscience qu'il n'y aura pas moins de 9 gouvernements qui vont se succéder jusqu'à ce qu'ils arrivent à la retraite. Et donc, je ne comprends pas très bien, en fait, qu'aujourd'hui, on ait autant de jeunes qui se mobilisent pour une réforme qui, au final, est justifiée.
Merci Grace d'avoir participé à notre conversation ce soir. Grace qui évoquait, c'est vrai, la mobilisation de la jeunesse. Vous avez peut-être des retours, des remontées du terrain, Gérard Martinet. Ils sont mobilisés, ils se sentent concernés, les jeunes, par cette réforme des retraites.
Oui, tout à fait, parce qu'ils veulent vraiment, et on leur explique à un certain nombre d'organisations de jeunesse, que notre système... ils doivent pouvoir en bénéficier à l'avenir et pas considérer, comme on dit, les jeunes considèrent qu'ils n'auront pas de retraite, etc., ou peu de retraite. Ben, si un système par répartition est tout à fait capable, avec une répartition correcte et équilibrée de la richesse produite dans notre pays, de financer les retraites pour les jeunes. Et ils veulent manifester pour ça. Et ils ont tout à fait raison, parce que le système est aussi pour eux.
Charles Rodoel, le gouvernement dit faire cela pour les jeunes en réalité. Hein.
On parle beaucoup de système par répartition. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que les travailleurs, les salariés d'aujourd'hui cotisent sur leur feuille de paye, vous avez les cotisations, pour, et l'une de celles-ci, c'est une cotisation pour financer les pensions des retraités actuels. C'est un système formidable de solidarité qui veut dire que les travailleurs actuels, lorsqu'ils seront à la retraite, auront leur retraite financée par les travailleurs de demain. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si on maintient un système de retraite qui va aller de déficit en déficit, eh bien, lorsque ces jeunes seront à la retraite, le système de retraite ne sera plus viable pour qu'ils puissent repartir à la retraite dignement. Qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui? Moi, j'ai parfaitement conscience que la réforme qui est proposée est un effort qui est demandé à des millions de Français. Mais évidemment, travailler 3 mois de plus ou travailler 2 ans de plus dans certains métiers, dans beaucoup de métiers, c'est un gros effort qui est demandé, il faut le dire. Mais pourquoi est-ce qu'on propose ceci? On propose ceci tout simplement parce qu'on veut que le système de retraite par répartition, qui est une merveille que l'on a, puisse perdurer et puisse être garanti, notamment pour les jeunes dont nous parlons, qui soyeront travaillés, soyeront étudiés, soyeront manifestés demain.
Alors la première ministre Borne et la chef des députés Renaissance Berger vous a chargé d'aller ratisser sur le terrain, tracter, convaincre. Est-ce que vous avez des remontées? Parce que votre collègue de l'Hérault, Patrick Vignal, lui dit que c'est très négatif le ressenti des Français quand on leur dit qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Ce qui est la vérité.
C'est pas des consignes qui nous sont données. C'est quoi le rôle du député dans le fond? Lorsqu'on vote la loi,
c'est d'appliquer les consignes de leur chef, parfois.
Lorsqu'on modifie la loi.
Vous a demandé d'aller sur le terrain, d'aller convaincre.
Oui. Alors, moi, j'ai 2 choses à vous répondre à cela. La première des choses, c'est que lorsqu'on est député élu de la majorité présidentielle et qu'on a soutenu le programme présidentiel dans l'élection qui vient d'avoir lieu et dans les législatives, que le président de la République annonce qu'il veut mener une réforme des retraites dans ce quinquennat. Moi, je trouve cohérent de soutenir une réforme des retraites, simplement. Sur l'ensemble des projets de loi et des propositions de loi qu'on étudie, qu'on modifie et que l'on vote. Si le député reste à l'Assemblée nationale et qu'il ne concerne personne, son utilité se perd. Moi, je vous réponds juste là-dessus.
Vous êtes allé sur le terrain, quels sont les retours?
Il faut absolument... Mais les retours, je veux vous dire, sont très partagés. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont opposées à la réforme des retraites et c'est leur droit. Mais il y a également des millions de Français qui ont compris et qui pensent et qui expriment le point de vue que cette réforme est absolument nécessaire et parfaitement juste. Lorsque vous allez voir une personne qui, si elle part à la retraite aujourd'hui, gagnerait 900 euros par mois. Mmh. Et si cette réforme lui permet d'avoir une pension de retraite de 1200 euros par mois.
1200 euros brut, il faut bien le préciser.
Mais entre 900 euros et 1200 euros brut,
ça peut diminuer de 50 euros selon si le retraité est marié, célibataire, c'est la fameuse CSG.
Mais que vous parlez, mais une différence de 250 euros, c'est énorme pour des millions de Français dans ce pays.
Oui.
Plus
de 250 euros
mais
brut.
C'est une différence énorme pour des millions de Français dans ce pays. Et si cette réforme garantit ce droit, moi je crois que cette réforme, il faut la porter. Et quand on est député de la majorité présidentielle et qu'on a été élu sur ce programme, il me semble cohérent de la soutenir tout en gardant constamment une oreille attentive à toute amélioration du projet de loi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Gérard Mardinet.
Oui, alors nous déjà, on est pour l'augmentation des petites retraites, mais à dire que d'autres mesures permettent de les financer. Et en particulier, notre système de retraite, aujourd'hui pris dans sa globalité, n'est pas en déficit. Ni en 2021, il ne l'a pas été, il ne le sera pas en 2022. Bon, mais là où il y a un défaut de financement qui peut le mettre en danger, c'est du côté du financement des retraites des fonctionnaires, uniquement. Pourquoi ? Parce que l'État a très mal géré les retraites des fonctionnaires depuis très longtemps. Les régimes des salariés du privé ont de l'ordre de 180 milliards d'euros de réserves, en plus du fait qu'ils ne sont pas en équilibre. Et tout ça a été constitué pour faire face à la bosse du baby-boom devenu pépi-boom aujourd'hui. Pour ce qui est du déficit des régimes des fonctionnaires, enfin, ce n'est pas un déficit, vu que ce n'est pas vraiment un régime par répartition, vu qu'il y a les retraites des fonctionnaires sont budgétisées dans le budget de l'État. Mais le fait qu'il y ait eu de moins en moins de fonctionnaires embauchés au statut ces dernières années a fait que le taux actif sur retraité est très faible dans la fonction publique. Il est de moins de 1 actif pour un retraité. Et donc forcément, l'État doit financer les conséquences des choix qu'il a faits et pas mettre un impôt supplémentaire, parce qu'on l'appelle comme ça, qui est sur les salariés, qui est ce report de l'âge légal de départ, et l'État, pour financer les retraites des fonctionnaires, et nos collègues fonctionnaires sont tout à fait d'accord avec ça, doit mobiliser toutes les ressources de l'État, et pas que solliciter les salariés à travailler pour plus longtemps. Nous, on suggère qu'ils luttent plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, qui rapporterait beaucoup d'argent, et puis qu'il y a d'autres sources, la TVA, etc., et une loi économiques qui permettent de rétablir, à travers une gouvernance plus responsable des grandes entreprises, un partage de la valeur qui est passé de 5 à 15% du PIB en faveur des actionnaires, et bien qu'il soit rééquilibré en faveur des salariés. Et je peux vous dire qu'on finance toutes les mesures sociales sans augmenter l'âge de départ et la durée de cotisation.
Vous l'entendez, les argumentaires sont prêts, très développés, très précis. Pas sûr qu'on ait le temps de les entendre demain dans les cortèges des différentes manifestations. Philippe nous appelle au 39-21. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ?
Ça va très bien et vous ? Je vous remercie, cher Philippe. Alors, dites-nous, dans quel état d'esprit êtes-vous avant les grandes manifestations de demain ?
Eh bien oui, c'est la première fois que je vois ça autour de moi, dans les différents endroits publics où je suis allé, de sentir que les gens sont très attentifs à ce qui va se passer. Et ça correspond aux 67% de gens qui sont défavorables, et ça fait des défavorables à cette réforme, et ça fait des millions et des millions. Là, hein. C'est pas une poignée d'adhérents qui est pour la réforme. Donc on a 67% de population qui est contre cette réforme. Et je me rappelle des propos d'Emmanuel Macron et de toutes les personnes de La République En Marche qui nous disaient au premier mandat il ne faut pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, revisionnons les cassettes et on verra bien que d'un mandat à l'autre, comment ça change. Alors, je finirai en disant que cette retraite est profondément injuste. Elle est profondément injuste. Je prends un exemple. On a supprimé l'impôt sur la fortune, sur les grandes fortunes. Eh bien, en même temps, on fait cette réforme. Donc, si vous voulez, c'est déséquilibré dans la symbolique. Donc, je dirais, sous forme un peu exagérée, rétablissons l'ISF et ça résoudra le problème. Mais ce n'est pas le sens littéral du propos. Elle est injuste parce qu'elle dresse les jeunes, excusez-moi, ceux qui rentrent dans la vie active, contre des seniors qui vont, passer à la retraite. Et elle les dresse aussi contre les retraités. Ils peuvent penser que, il faudrait peut-être leur demander un effort. Pourquoi pas ? Je veux dire, donc, c'est pas le moment déjà, et je pense que c'est mal engagé. Donc, demain, c'est sûr, et le gouvernement le sait, il y aura des centaines de milliers de manifestants, ça c'est sûr. Après, le gouvernement doit réfléchir à ce qu'il fera en fonction de la mobilisation des jours à venir. Mais déjà, ça s'annonce noir demain, et pour le gouvernement aussi.
Merci beaucoup, Philippe, d'avoir contribué à notre notre discussion ce soir au Standard Europe 1, le 39-21 que vous pouvez toutes et tous appeler. Charles Rodwell, on l'a entendu de la bouche de Philippe, il y a ce sentiment d'injustice. Peut-être que ça colle à la peau de l'ex-République en marche, hein. Ça s'appelle Renaissance aujourd'hui, qu'on favorise toujours un peu les riches, hein, par rapport aux pauvres.
Alors, je remercie beaucoup Philippe pour cette intervention.
Philippe qui est fonctionnaire, je le précise.
D'accord. Il a parlé de conflit de génération. Moi, je ne crois absolument pas au conflit de génération. Justement, si on permet d'avoir un système de retraite plus juste et qui permettra à tous, qui assure à tous de partir à la retraite et à partir à la retraite dans de bonnes conditions. Si on assure aux jeunes dont Philippe parle qu'ils pourront partir à la retraite, avoir une retraite qui est digne et qui est juste et qui est de même équivalent, voire meilleure que ses grands-parents, que leurs grands-parents, eh bien je crois qu'on a fait une bonne partie du chemin. Mais pour cela, il faut quoi ? Il faut avoir un régime de retraite qui se finance. Qu'est-ce qu'on dit dans... On ne dit rien de plus qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui travaillent pour cotiser et pour financer les pensions de ceux qui sont à la retraite actuellement. C'est la ligne qu'on défend.
Mais alors, Gérard Mardinet, lui, il a une autre option. Enfin, son syndicat, la CFE-CGC, parle beaucoup de l'augmentation de la cotisation. Je crois que votre président parle de 3 euros.
Oui, alors on pourrait mettre à contribution...
Pas besoin de changer l'âge de départ.
Non, mais ça relève de ce qu'on avait dit, de l'amélioration du partage de la valeur au profit des salariés pour leur rémunération et pour leur cotisation retraite. Donc, et moi, je ne peux pas laisser dire que cette réforme est juste. Je vais vous prendre un exemple, et c'est en particulier les femmes qui ont eu des enfants. Je prendrai un exemple, Martine, voilà. Elle a eu 2 enfants. Elle pouvait partir à 62 ans parce qu'elle avait bénéficié de ses 8 trimestres par enfant. Eh bien, elle devra travailler 2 ans de plus alors qu'elle a eu beaucoup de son temps à consacrer, en plus de son travail, pour élever ses enfants. Et dans la loi, il y a une petite mesurette qui est la prise en compte des congés parentaux, mais qui est affichée pour dire « mais non, les femmes, on ne les oublie pas », sauf que ça va concerner un nombre de femmes...
C'est bien que vous reconnaissez que ce soit une mesure.
Oui, mais immensément réduit, c'est 1 ou 2% de gagnantes pour... 100% de perdantes dans celles qui ont eu des enfants. Donc, si vous voulez, c'est un peu de la com, quoi.
Pour répondre sur ce point...
Très vite, parce qu'on faut remarquer une pause. Allez-y, Charles.
Je ne crois pas que ce soit de la com. Je crois vraiment qu'on a un débat de fond et idéologique sur le point. Dans le fond, pour assurer une viabilité à ce système de retraite, il y a 3 choix. On peut baisser la pension des retraités. On peut augmenter les cotisations. Ça veut dire demander aux travailleurs, aux salariés actuellement, de payer plus. C'est ce que vous proposez avec la hausse des cotisations. On a un troisième choix... c'est de demander à ceux qui le peuvent, et oui, ça représente un effort, je partage ta vie, mais demander à ceux qui le peuvent de partir un peu plus tard à la retraite pour permettre à la fois aux travailleurs de ne pas payer plus et en même temps de ne pas baisser mais augmenter la pension des retraités. C'est ça le projet qu'on défend dans ce projet de loi sur la réforme des retraites.
Certains vous reprochent aussi de ne pas développer de politique familiale. On dit souvent que la démographie est la grande oubliée de cette réforme des retraites. On va en parler dans quelques instants, après une courte pause sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler au Standard, le 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes avec Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, défenseur de la réforme des retraites, et Gérard Mardinet, secrétaire général de la CFE-CGC, l'un des syndicats qui manifeste demain donc pour cette première grande journée de mobilisation intersyndicale, interprofessionnelle. Nous sommes en ligne avec Thierry qui nous appelle au 39-21. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Alors vous, si j'ai bien compris, vous craignez une chose, ce sont les blocages.
Oui, entre autres, mais pas que les blocages.
D'accord.
En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que concernant la retraite, oui, c'est quelque chose. La réforme est injuste, mais la retraite par elle-même est injuste. Je m'explique. C'est que en France, que ce soit pour la retraite ou pour les salaires, c'est au plus on a un pouvoir de nuisance qui est fort, et au plus on va avoir des salaires élevés et une retraite avantageuse. Donc, on peut prendre comme exemple ce soit la RATP.
Voilà, les secteurs stratégiques qui ont la capacité de pouvoir, en fait, paralyser le pays et qui sont pour vous les plus privilégiés, si j'ai bien compris votre raisonnement, Thierry.
Complètement. RATP, SNCF, transport, régulière du sol, pilote, etc. Évidemment, tout ce qui est fonction publique. Donc, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand on parle d'injustice au niveau de la réforme, ben déjà, l'injustice, c'est la retraite par elle-même, parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite 10 ans avant moi. Ça, il faudrait quand même qu'on me l'explique.
Vous,
qu'on
l'explique parce que le système actuel est pour vous profondément injuste.
Complètement, complètement. Donc, je renvoie les politiques et les syndicalistes dos à dos. Déjà de commencer à faire quelque chose qui soit équitable un petit peu pour tout le monde, parce qu'en fait, le gars qui est commercial, tel comme moi, ou tout simplement maçon, eh ben, généralement, on est dans des petites entreprises, et en fait, on a le droit à rien. Les retraites, donc là, on va nous décaler à 64 ans, et quand je pense qu'un maçon n'est pas reconnu comme un travail pénible par rapport à un gars qui conduit un train avec des manettes, comme dirait une PlayStation, je trouve ça, mais alors franchement scandaleux. Franchement scandaleux. Voilà.
Alors, la majorité a veillé, si on en croit le projet de loi de réforme des retraites, à ne pas trop braquer non plus ces métiers où il y a une forte tradition syndicale aussi, il faut bien le dire. Gérard Mardinet.
Oui, mais les régimes spéciaux, ils résultent de l'histoire. Bon, à la SNCF, il faut savoir qu'il y a
plus... Il y a un sentiment d'injustice aussi qui est perçu par une grande partie des Français.
Le régime spécial de la SNCF n'est plus applicable pour les embauchés depuis 2018, si vous voulez. Donc, et le ministre Olivier Dussopt l'avait dit lui-même, quand on veut remettre en cause les régimes spéciaux, parce qu'il faut poser les questions et comment on veut harmoniser, sur quels critères de pénibilité, etc. Parce que les cheminots, ils découchent quand même beaucoup hors de chez eux, hein, et donc c'est quand même une contrainte un peu pénible. Eh bien, il faut regarder les aspects rémunération, les aspects cotisation et les aspects retraite. Donc c'est tout un sujet social d'ensemble qu'il faut aborder au niveau de la direction ou des branches concernées, mais surtout pas avec la pression de dire... Vous engagerez cette négociation, mais une fois qu'on vous aura forcé à perdre vos avantages sur la retraite.
Charles Orduel.
Je vous remercie beaucoup, ce monsieur, pour son intervention. Il a parfaitement raison sur la pénibilité. Évidemment que la pénibilité doit être prise en compte dans un système de retraite qui est juste. Et c'est tout le travail qu'on fait avec les partenaires sociaux. Même s'ils vont manifester demain, les concertations continuent sur le sujet pour que métier par métier ou filière par filière, les concertations continuent pour prendre en compte la pénibilité. Sur la question spécifique des régimes spéciaux, évidemment qu'il y a des régimes spéciaux qui, à mon sens, il faut revoir. Simplement, il faut le revoir en prenant, encore une fois, métier par métier. Quand vous êtes chauffeur de bus la nuit pour la RATP, je peux vous assurer que votre métier est pénible et que sa pénibilité mérite d'être prise en question. Sur la question des blocages, je partage l'avis de ce monsieur, le droit de manifester ne doit pas autoriser tout les blocages, on a des souvenirs récents, les Français qui veulent et qui doivent aller travailler, doivent pouvoir aller travailler dans des conditions normales et qu'un service minimum doit être parfaitement assuré pour ces Français.
Qu'est-ce que vous espérez en fait de demain, Charles Rodwell ? Que ça dégénère, que ça exaspère les Français, ces blocages. Après les manifestations, l'intersyndicale va encore se réunir, peut-être pour programmer de nouveaux rendez-vous de manifestations. On peut se demander aussi la question, on peut aussi se poser la question, Charles Rodwell, est-ce que ça ne vous arrange pas si ça bloque ?
Ce serait bien cynique de notre part de suivre ce raisonnement. Je ne souhaite ni que ça dégénère, ni que ça exaspère ceux qui veulent aller travailler, qui puissent le faire sans problème. Évidemment que ces revendications doivent être entendues, elles doivent pouvoir s'exprimer. Le droit de grève et le droit de manifestation sont là pour ça. Mais en aucun cas, on peut avoir l'idée que cela dégénère ou que cela empêche les Français d'aller travailler.
Pour l'instant, dans les sondages, c'est une très courte majorité de Français qui comprennent les grèves, comprennent en quelque sorte les blocages. 55% dans un sondage.
C'est intéressant
de voir
l'évolution de ce sondage.
BFM TV. Oui, la marge de manœuvre est là. Vous pouvez faire basculer l'opinion. C'est ce que je voulais dire dans ma question précédente. Gérard Mardinet, c'est quoi l'enjeu de demain, concrètement ?
L'enjeu de demain, c'est de faire valoir fortement des positions argumentées qui montrent que cette réforme est injustifiée et pénalisante pour une grande majorité de Français et qui vont l'exprimer. Donc, et la démocratie, une démocratie vraiment digne de ce nom, doit écouter ce type de remontée justifiée, si vous voulez.
Mais alors, c'est quoi ? C'est instaurer un rapport de force ?
Malheureusement, nous, ce qu'on dit, c'est quand on en arrive là, c'est que c'est un échec du gouvernement d'avoir pris en compte des considérations argumentées, réalistes, etc. Et j'appelle tous vos auditeurs que j'ai pu convaincre de la nécessité de s'opposer à cette réforme, de signer une pétition intersyndicale sur change.org pour montrer qu'en plus de la mobilisation dans les manifestations de demain, eh bien, il y a un grand nombre de Français qui s'opposent à cette réforme.
Alors, demain, ça n'est qu'une première journée de mobilisation, selon vous, Gérard Mardinet ?
Bien, écoutez, probablement oui, parce que...
Il y a peu de chances que le projet soit retiré demain soir.
Voilà, hein. Exactement.
D'autant qu'Emmanuel Macron ne sera même pas en France. Avec 11 ministres, il est en Espagne. D'ailleurs, Charles Rodouel, c'est un bon choix, ça, d'avoir emmené avec lui en Espagne Bruno Le Maire, par exemple, le ministre de l'Économie.
Ce que vous voulez dire, c'est que les manifestations doivent bloquer le pays au point d'empêcher le président de la République signer un accord international.
Je vous demande votre avis.
Non, je pose juste la question. Ce qui va se passer demain, c'est que la France et l'Espagne, une date prévue depuis très longtemps, vont signer un accord.
Je ne parlais pas du président, je parlais de ses ministres, les ministres clés. Je crois qu'Olivier Dussopt, d'ailleurs, restera en France. Il devait partir initialement à Barcelone, il n'ira pas.
Des accords de coopération historiques dans matière économique, c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire sera présent dans tous les autres domaines où les ministres seront présents. Là encore, le droit de manifestation est parfaitement légitime, mais de là à ce qu'il bloque le pays jusqu'à empêcher les ministres d'aller signer cet accord qui est prévu de très longue date de coopération espagnole, je crois qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, à mon sens.
Nous sommes en 2022, voilà, une société un peu de l'image.
2023.
2023, pardon, vous voyez, je ne suis pas encore mis à jour. Voilà, il faut que je fasse ma petite mise à jour. Georges est avec nous au Standard d'Europe 1, le 39-21. Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bien, je voulais simplement dire que notre président a réussi sa théorie du ruissellement qu'il a développée lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Sauf que c'est les pauvres vers les riches. C'est la cascade qui remonte jusqu'à la source. Et sur la réforme des retraites, il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est qu'encore on nous fait les poches. Car 2 ans de travail supplémentaire, mais ça, c'est de l'argent que l'on prend dans les poches de ceux qui travaillent. Si on prend l'exemple d'un retraité qui a une petite retraite de 1000 euros, on lui enlève 2 ans de sa retraite, ça veut dire qu'on lui prend 24 000 euros dans sa poche.
Alors, chacun fait ses calculs, c'est un peu le charme de la réforme des retraites. On n'en est pas à la première en France.
C'est très simple, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre la chose. Vous gagnez 1 000 euros par mois de retraite,
oui.
On vous enlève 2 ans de retraite. 1 000 euros multipliés par 24 mois, ça fait 24 000 euros. Donc on vous prend dans votre poche 24 000 euros. Merci Monsieur Macron, prend encore aux pauvres pour donner aux riches. Parce que dans les riches, on ne leur prend pas.
Georges, il nous reste très peu de temps. Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, qui voudrait vous répondre.
Pour répondre aux deux points et peut-être à vos deux inquiétudes, monsieur, le premier point, c'est que cette réforme, justement, elle va permettre aux retraités qui gagnent 1 000 euros de gagner 1 200 euros. C'est ça que ça veut dire, cette réforme. C'est-à-dire qu'on essaie d'assurer un système de retraite qui va permettre à ce retraité, non pas de gagner 1 000, mais 2 000 euros par mois. La deuxième des choses, vous parlez de vous faire les poches. Ben, vous faire les poches, ça serait augmenter vos cotisations. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a le choix. On a soit le choix de baisser la pension des retraités. On veut au contraire les augmenter de 1 000 à 1 200 euros. Le deuxième choix qu'on aurait, c'est d'augmenter les cotisations. Donc augmenter ce que les salariés et ce que les travailleurs mettent au pot pour la réforme des retraites, pour le régime pardon, des retraites. La troisième option, et c'est celle qu'on choisit, c'est de demander à ceux qui le peuvent, et on a conscience de l'effort que ça représente, mais de demander à ceux qui le peuvent de travailler un peu plus longtemps, de 3 mois à 2 ans, pardon, pour justement permettre ces mesures de justice sociale sur le long terme. C'est ça qu'on essaie de faire.
Charles Rodouel, qui est comme le président Emmanuel Macron, et je le dis en m'appuyant sur les propos d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, déterminé à défendre cette réforme des retraites. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur Europe 1. Merci Gérard Mardinet, qui manifestera donc demain à Paris, vous serez pour la CFE-CGC. Merci à vous, monsieur le député Charles Rodouel, député Renaissance de la première circonscription des Yvelines.
Merci à vous.
Dans quelques instants, retour de l'information avec Hélène Zélani. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.